Journal d'un écrivain, 1877, avril. Chapitre 1er. La guerre, nous sommes les plus forts. La guerre est déclarée, s'écriait-on chez nous voilà 2 semaines. Elle est déclarée, soit, mais quand commencera-t-elle? Demandaient certaines gens anxieux. Tous sentent qu'il va se passer quelque chose de décisif, que nous allons peut-être voir l'épilogue de vieilles histoires qui ont trop traîné, que nous marchons vers des événements qui nous permettront de rompre avec le passé, que la Russie va faire un grand pas en avant. Quelques sages, pourtant, ne peuvent croire que ce soit possible. Leur instinct leur dit que cela est, mais malgré tout, leur incrédulité persiste. La Russie? Mais comment peut-elle? Comment ose-t-elle? Est-elle prête, non seulement au point de vue matériel, mais intérieurement, moralement? Il y a l'Europe, là. Et qu'est-ce que la Russie? C'est un bien grand pas pour elle. Le peuple, lui, croit. Il est prêt. C'est le peuple lui-même qui a voulu la guerre, d'accord avec le tsar. Dès que la parole du tsar eut retenti, le peuple se pressa dans les églises par toute la Russie. En lisant le manifeste impérial, tous les gens du peuple se signaient en se félicitant de voir venir enfin cette guerre, à Pétersbourg comme ailleurs. Les paysans, eux, offraient de l'argent, voulaient même vendre leurs charrues. Mais tout à coup, ces milliers d'hommes s'écrièrent d'une voix unanime « À quoi bon de l'argent? À quoi bon vendre nos charrues? Allons-nous même faire la guerre ?» Ici, à Pétersbourg, on a souscrit de fortes sommes pour les blessés et les malades. Les donateurs s'inscrivent comme anonymes. Ces faits sont très nombreux, mais il se produirait par dizaines de mille que personne n'en serait surpris. Il montre seulement que tout le peuple s'est levé au nom de la justice et pour la cause sainte, qu'il s'est levé pour la guerre et veut marcher. Les sages nieront peut-être ces faits, comme ils ont nié ceux de l'année dernière. Certains d'entre eux se moqueront peut-être. Mais que signifie leur raillerie? De quoi rit-ils? Ah, voilà. Ils se regardent comme une force, comme une élite, sans le consentement de laquelle on ne fait rien. Cependant, leur force ne durera guère. Quand ils se verront débordés, ils tiendront un autre langage. En tout cas, tous les vœux seront pour le tsar et pour son peuple. Nous avons besoin de cette guerre, tout autant que nos frères slaves, torturés par les Turcs. Nous nous levons pour aller au secours de nos frères, mais nous agissons aussi pour notre propre salut. La guerre va purifier l'air que nous respirons et dans lequel nous étouffons. Les sages crient que nous étouffons de nos désordres intérieurs, que nous ne devons pas désirer la guerre, mais bien une paix durable afin de cesser d'être des animaux et de devenir des hommes, afin de nous habituer à l'ordre, à l'honnêteté, à l'honneur. Quand nous en serons là, disent-ils, nous pourrons aller aider nos frères slaves. Comment se représente-t-il donc le procédé à l'aide duquel ils deviendront meilleurs? Comment se défendront-ils d'être en désaccord avec le sentiment de tout le pays? Quoi qu'il en soit, ils croient toujours à leur force. Ils vont faire une promenade militaire, disent-ils maintenant en parlant de nos soldats. Il n'y aura pas de guerre, tout au plus des manœuvres de campagne, qui coûteront plus cher, des centaines de millions de plus que les grandes manœuvres ordinaires. Ah! S'il pouvait arriver que nous soyons battus, qu'il nous fallût bien accepter la paix dans des conditions désavantageuses, comme ils triompheraient, les sages, et nous serions humiliés et bafoués par eux pendant des années. Grâce à eux, surgirait un nouveau nihilisme, négateur comme le premier de la patrie russe. La jeunesse cracherait encore sur son drapeau et sur ses foyers, déserterait ses familles, annonnerait encore comme des leçons apprises des dithyrambes sur la grandeur européenne écrasant la bassesse russe. Ce serait, d'après elle, un devoir pour la Russie que de se faire aussi petite, aussi insignifiante que possible. Mais non! Il nous faut la guerre et la victoire. Avec la victoire viendra la parole nouvelle. La vraie vie de notre pays commencera et nous ne serons plus endormis par des radotages faussement raisonnables comme avant. Mais il faut être prêt à tout. Même si nous supposons que des revers nous attendent au début, il ne faut pas nous décourager. Le colosse russe n'en sera pas ébranlé et il finira par avoir son tour. Je n'exprime pas de vaines espérances. Je suis sûr de ce que je dis. Notre force, c'est notre confiance dans le colosse russe. Toute l'Europe craint que son vieil édifice de tant de siècles ne s'écroule. Nous pouvons nous fier à notre colosse, à notre peuple. Le début de cette guerre populaire a montré que rien chez nous n'est pourri, corrompu, comme le prétendent nos sages, qui ne songent peut-être qu'à eux-mêmes. Ces sages nous ont rendu un service réel. Ils ont complètement rassuré l'Europe au sujet de nos forces. Ils répétaient à l'envi qu'en Russie, il n'y avait pas de sentiment national, que nous n'avions pas de peuple à proprement parler, que notre peuple et ses prétendues idées n'existaient que dans l'imagination de quelques rêveurs moscovites, que nos 80 millions de paysans n'étaient que de vagues contribuables, indifférents et abrutis par l'alcool, qu'il n'y avait aucune solidarité entre le peuple et le tsar, et que seuls les exemples des cahiers d'écriture faisaient allusion à cette mauvaise plaisanterie, que tout en Russie était démoli ou rongé par le nihilisme, que nos soldats jetteraient leurs fusils et se sauveraient comme des troupeaux de moutons, que nous n'avions pas de vivres et n'attendions qu'un prétexte pour reculer, que nous supplions même l'Europe de nous fournir ce prétexte. Voilà quelles étaient les convictions de nos sages. Toute l'Europe s'écria « La Russie se meurt, la Russie n'est plus rien, ne sera jamais plus rien. » Les cœurs de nos ennemis tressaillirent d'aise, et tressaillirent d'aise les cœurs de millions de Juifs européens et de chrétiens judaïsants. Et plus que tout autre, tressaillit d'aise le cœur de Beaconsfield. On lui promettait que la Russie supporterait tout, les avanies, les affronts, sans vouloir jamais se déterminer à faire la guerre. Tous se réjouirent de penser que la Russie n'avait aucune importance. Ils ne remarquèrent pas le principal, l'alliance du tsar avec son peuple. Ils n'ont omis rien que cela. À présent, ils affirment sans rire que le patriotisme est né chez nous du manifeste du tsar. Ils ne comprennent rien à la Russie. Ils ne saisissent pas que même si nous perdons quelques batailles, nous vaincrons, malgré tout, grâce à l'unité de l'esprit populaire et à la conscience populaire. Nous ne sommes pas la France, qui est toute dans Paris. Nous ne sommes pas l'Europe, qui dépend entièrement des bourses de sa bourgeoisie et de la tranquillité de ses prolétaires, achetés pour une heure au prix d'énormes efforts accomplis par ses gouvernements. Ils ne savent pas que ni les Juifs européens et leurs millions, ni les multitudes de soldats de toutes les puissances coalisées ne pourront nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas faire, et qu'il n'y a pas une force comme la nôtre sur le globe. Le malheur, c'est que ces paroles feront rire, non seulement en Europe, mais chez nous. Quelques-uns de nos compatriotes, intelligents et avisés en n'importe quelle autre circonstance, méconnaissent entièrement l'esprit et la puissance de leur pays. Et pourtant, la tactique européenne ne peut rien contre nous. Sur notre terre russe, qui diffère tant du reste de l'Europe, la tactique a dû progresser dans une direction tout autre, et toutes les armées de l'Europe se heurteraient chez nous à une force insoupçonnée. Et que faire contre notre sol illimité et l'union entière du peuple russe? Il est triste que tant de nos compatriotes ignorent la véritable situation. Heureusement, nos tsars et notre peuple la connaissent. Alexandre Ier connaissait bien notre force quand il disait qu'il laisserait repousser sa barbe et se retirerait dans nos forêts avec son peuple, mais qu'il ne céderait pas à Napoléon. L'Europe se briserait contre notre résistance. Jamais elle n'aurait assez d'argent et jamais elle ne saurait assez s'organiser, divisée comme elle l'est, pour nous vaincre. Quand tous les Russes sauront que nous sommes si forts, il n'y aura plus besoin de guerre. L'Europe croira en nous. Elle nous découvrira, comme jadis l'Amérique. Mais il faut pour cela que nous nous découvrions nous-mêmes avant tout, et que nous n'ignorions plus que toute désunion chez nous est une folie, que nous devons toujours marcher avec notre peuple. Chapitre 2. La guerre n'est pas toujours un fléau, mais bien parfois le salut. Mais nos sages se sont cramponnés à l'autre côté de la question. Ils prêchent l'amour, l'humanité. Ils pleurent sur le sang que l'on va verser. Ils gémissent en songeant que cette guerre nous rendra encore plus bestiaux. Que, partant, nous tournons le dos en cette perfection qu'ils rêvaient pour nous tous. Certes, la guerre est une grande calamité. Mais dans les raisonnements de nos sages, il entre une grande part d'erreur. Et puis nous en avons assez de tous ces sermons bourgeois. Je me figure qu'il y a plus de hauteur morale dans le fait de sacrifier sa vie pour ce que l'on croit une cause saine que dans tout le catéchisme bourgeois. Une guerre pour la possession de nouvelles richesses, une guerre entreprise pour le plus grand bien des boursiers, peut influencer en bien sur le développement d'une nation. Mais, ignoble dans son but premier, elle doit receler aussi en elle un germe de corruption et de mort. Si l'Angleterre, par exemple, poussée par ses intérêts commerciaux, se mettait du côté de la Turquie dans la lutte orientale actuelle, oubliant les gémissements des rayas martyrisés, je crois qu'elle aurait levé elle-même l'épée qui tomberait tôt ou tard sur sa propre tête. Au contraire, qu'y a-t-il de plus sain qu'une guerre comme celle que la Russie commence aujourd'hui? On vous dira que la Russie va ainsi acquérir des alliés futurs, donc de la force, et qu'elle ne fera que ce que ferait l'Angleterre en luttant pour son développement. Que le panslavisme est un danger pour l'Europe, qu'il a le droit d'en arrêter l'essor. Que ce n'est que l'éternel instinct animal qui jette la Russie en avant. Qu'il faut donc, humainement, prêcher la paix et empêcher l'effusion de sang. Admirable parole. Mais quand la Russie aura libéré les peuples qu'elle va secourir, elle ne se précipitera pas sur l'Europe comme celle-ci ne manquerait pas de le faire sur la Russie, dans ce cas où elle pourrait s'unir toutes contre elle. Les puissances européennes ont toujours agi ainsi, entre elles, quand elles trouvaient l'occasion de tomber à plusieurs sur une seule, ou qu'une seule était assez forte pour en accabler lâchement une autre. Voyez la guerre franco-prussienne. Une nation d'Europe, la plus civilisée et la plus savante aussi, mais moins favorisée par les circonstances du moment. Elle l'a mordue comme une bête sauvage, l'a saignée à blanc en lui prenant des milliards et lui a arraché une côte en lui enlevant deux de ses plus belles provinces. Après cela, je comprends que l'Europe n'est guère coupable quand elle se méprend sur les motifs de la Russie. Comprendront-elles les nations européennes, fières, savantes, qui se croient les premières de toutes, que la Russie ignorée soit prédestinée à être la terre et la race de salut? Qu'elle seule pourra prononcer la parole qui unira toute l'humanité dans un réel amour mutuel? Admettront-elles que nous ayons le désir de ne nous emparer de rien, de donner simplement, dans la tranquillité de notre force, le goût du désintéressement et de l'union humaine? Cette union, nous la voyons dans le développement le plus libre de toutes les tendances humaines, dans l'emprunt que se feront mutuellement toutes les races de leurs meilleures particularités organiques. Oh! Que l'humanité, comme un arbre magnifique, ombrage toute la terre heureuse. Demandez au peuple, demandez aux soldats pourquoi ils se lèvent. Interrogez-les sur ce qu'ils désirent dans cette guerre. Ils vous répondront, comme un seul homme, qu'ils marchent pour servir le Christ et pour libérer leurs frères opprimés. Aucun d'eux ne pense à une annexion territoriale possible. Oui, c'est dans cette guerre que nous saurons montrer nos desseins pour l'avenir de la Russie et de l'Europe. Ce que nous voulons, c'est l'union. Puisqu'il en est ainsi, notre idée est sacrée. Ce n'est plus du tout l'instinct bestial des nations accapareuses qui nous anime, mais bien l'espoir de faire le premier pas vers la paix éternelle à laquelle nous avons le bonheur de croire, vers l'union indissoluble et le bonheur véritable de l'humanité. Il ne faut donc pas toujours préconiser la paix. Ce n'est pas dans la paix à tout prix que sera le salut. Il peut se trouver dans la guerre. Chapitre 3. Le sang versé peut-il sauver ? Mais c'est toujours du sang et encore du sang, répètent les sages. Tout cela, c'est des mots. Tous ces gens qui gémissent sur l'humanité font souvent trafic de cette même humanité. Sans la guerre, on verserait peut-être plus de sang. Croyez que dans certains cas, peut-être dans tous, s'il ne s'agit pas de guerre civile, la guerre est un procès par lequel, avec un minimum de sang versé, on peut arriver à la tranquillité internationale. Il est clair que c'est triste, mais que faire si c'est ainsi? Mieux vaut tirer le glaive une fois que souffrir sans fin. La paix actuelle rend l'homme plus féroce que la guerre. Ce genre de paix, on l'achète toujours. Elle produit la stagnation intellectuelle. Ce ne sont que les exploiteurs de l'humanité qui s'engraissent pendant une longue paix. On répète que la paix produit la richesse. Quelle richesse ? Celle de la dixième partie des hommes infectés de tous les vices morbides qu'enfante cette richesse. Cette minorité transmet ses germes de corruption aux neuf autres dixièmes de l'humanité, mais sans l'enrichir. L'accumulation des capitaux entre les mains d'un petit nombre d'individus développe chez les privilégiés la grossièreté des sentiments. Chez les plutocrates, la sensualité s'accroît sans cesse. La sensualité fait naître la lâcheté et la férocité. L'âme malpropre et basse d'un voluptueux est plus cruelle que tout autre. Telle sybarite qui s'évanouit à la vue du sang qui coule d'une blessure au doigt ne pardonnera pas un pauvre débiteur insolvable et le ferait jeter en prison pour une dette insignifiante. Un ploutocrate, par souci de sa sécurité pécuniaire, est capable de crimes. Il ne connaît plus la solidarité humaine et promulgue sans honte des maximes dans ce genre « chacun pour soi ». On vous dira que les arts prospèrent toujours pendant les longues périodes de paix. Mais si les arts prennent du développement aux époques pacifiques, c'est uniquement parce qu'ils réveillent les âmes de leur somnolence abétissante. Une trop longue paix fait naître le besoin de la guerre, et souvent ce qui sortira d'une inaction prolongée, ce ne sera plus une lutte entreprise pour de nobles motifs, mais une campagne guerrière ayant pour but l'acquisition de nouvelles richesses, une campagne faite dans l'intérêt des boursiers, des exploiteurs. Une guerre de cette espèce est profondément corruptrice. Elle peut même perdre un peuple. Tandis que la lutte tentée pour délivrer les opprimés, la lutte désintéressée et sainte, purifie l'air, guérit l'âme d'une nation, chasse la poltronnerie et la mollesse. Une telle guerre fortifie les esprits par la conscience du sacrifice, par l'union de tout le peuple d'un pays. Voyez comment ils ont débuté, nos humanitaires. Ils ont fait preuve d'une férocité inhumaine en refusant tout secours à des malheureux martyrisés qui criaient à l'aide. Leur thèse favorite était « Médecin, guéris-toi d'abord toi-même ». Dédaigneux de la volonté nationale, ils nous reprochaient de vouloir sauver les autres alors que nous-mêmes ne savions même pas créer les écoles. Mais, ô humanitaire, nous allons lutter un peu aussi pour nous guérir nous-mêmes. Les écoles, certes, sont utiles, mais elles ont besoin avant tout d'une direction. Eh bien, c'est dans cette guerre que nous allons chercher l'esprit de décision qui nous manque. Nous reviendrons avec la conscience d'avoir accompli une œuvre désintéressée, d'avoir servi l'humanité en versant notre sang, avec la légitime fierté de notre force rajeunie. Nous allons communier avec le peuple, nous lier plus étroitement avec lui. C'est en lui seul que nous trouverons la guérison de notre maladie, de notre faiblesse improductive de deux siècles. Oui, La guerre est utile à quelque chose. Elle est bienfaisante, elle fortifie l'humanité. Cela paraît honteux si l'on pense de façon arbitraire, mais dans la pratique, on peut constater que la paix, si belle, si féconde qu'elle paraisse, arrive à débiliter les nations. Encore une fois, je ne parle pas des guerres intéressées. Nos enfants verront comment finira l'Angleterre. Chapitre 4. Le rêve d'un drôle d'homme. Récit fantastique. Je suis un drôle d'homme. Maintenant, on me traite de fou. Ce serait pour moi une sorte d'avancement en grade si je ne continuais à passer pour aussi drôle qu'auparavant. Il faut dire qu'aujourd'hui, je ne me fâche plus des plaisanteries. Je suis plutôt amusée quand on rit de moi. Je rirais même franchement, comme les autres, si je ne voyais avec tristesse que les moqueurs ne connaissent pas la vérité, que je connais, moi. Et il est bien pénible d'être seul à connaître la vérité. Mais ils ne comprendront pas. Non, ils ne comprendront pas. Naguère, je souffrais beaucoup de sembler drôle à tout le monde. Je ne faisais pas que sembler drôle, je l'étais. J'avais été drôle depuis ma naissance, et dès l'âge de 7 ans, je savais que j'étais drôle. Plus j'ai appris à l'école, plus j'ai étudié à l'université, plus j'ai été convaincue que j'étais drôle. Si bien que toutes les sciences que j'ai apprises n'avaient pour but et n'ont eu pour résultat que de me conforter dans cette idée que j'étais drôle. Il en était de même dans la vie courante que dans mes études. Chaque année, j'étais plus conscient de ma drôlerie, de ma bizarrerie à tous les points de vue. Tout le monde se moquait de moi, mais personne ne se doutait qu'il y avait un homme qui savait, mieux que n'importe qui, que j'étais drôle, et que cet homme, c'était moi. Ce fut par ma faute, du reste, qu'on ne le sut pas. J'étais trop fière pour faire mes confidences à personne. Cette fierté s'accrut avec l'âge, et s'il me fut arrivé par distraction de confesser devant qui que ce fût que je me trouvais drôle, je me serais cassé la tête d'un coup de revolver. Oh, comme je souffrais dans mon adolescence à l'idée qu'un jour, peut-être, j'en viendrais à avouer ce que je pensais là. Mais quand je fus un jeune homme, bien que chaque année je sentisse grandir ma bizarrerie, je devins plus calme, sans savoir au juste pourquoi. Peut-être parce que me vint une douleur plus grande à penser que tout au monde m'était indifférent. Il y avait longtemps que je m'en doutais, mais tout à coup, l'année dernière, je le sus à ne m'y tromper. Je sentis qu'il m'était bien égal que le monde existât ou qu'il n'y eût rien nulle part. Alors subitement, je cessai de me fâcher contre les rieurs. Je ne fis plus attention à eux. Mon indifférence éclatait dans les plus petites choses. Il m'arrivait, par exemple, de me promener dans la rue en bousculant les gens sans m'en apercevoir. Je ne veux pas dire que ce fut par distraction. J'avais cessé de penser à quoi que ce fût. Tout me devint indifférent. C'est alors que je conçus la vérité. Je conçus la vérité au mois de novembre passé, le 3 novembre pour être plus exact. Depuis cette date, je me rappelle chaque minute de ma vie. Ce fut par une soirée sombre, sombre comme on n'en voit pour ainsi dire jamais. Je rentrais chez moi et songeais justement qu'il était impossible de voir une soirée aussi fuligineuse. Il avait plu toute la journée. Ça avait été une pluie froide, on l'eût dit noire et hostile à l'humanité. Puis la pluie cessa. Il n'y eut plus qu'une terrible humidité dans l'air. Il me semblait que de chaque pierre de la rue, de chaque pouce carré de la chaussée, une vapeur froide montait. J'eus l'impression que si le gaz venait à s'éteindre brusquement, j'en serais heureux, car la lumière du gaz rendait l'humidité et la tristesse de l'air plus évidentes. Ce jour-là, je n'avais presque pas dîné, et depuis le commencement de la soirée, j'étais restée chez un ingénieur qui avait aussi la visite de 2 de mes camarades. J'étais demeurée muet, et je crois que mon silence même les ennuyait. Ils parlaient sur un sujet intéressant, en étaient venus à s'échauffer en apparence, mais j'avais vu que cela leur était en réalité indifférent. Ils s'échauffaient pour la forme. Je leur avais dit tout à coup, « Messieurs, je vois que ce dont vous parlez vous laisse absolument froid. » Ils ne s'étaient pas le moins du monde vexés de ma remarque, mais, comprenant que ce que je disais et ce qu'ils pensaient m'étaient profondément indifférents, ils s'étaient mis à rire de moi. Dans la rue, au moment où je pensais au gaz, je regardais le ciel. Il était affreusement noir, et cependant, on distinguait faiblement des nuages, entre lesquels des espaces plus noirs ressemblaient à des abîmes. Soudain, au fond de l'un de ces abîmes, une étoile brilla. Je me mis à la considérer attentivement, parce qu'elle me donnait une idée, celle de me tuer, cette nuit-là. Déjà, 2 mois auparavant, j'avais résolu d'en finir avec l'existence, et malgré ma pauvreté, je m'étais rendu acquéreur d'un beau revolver que j'avais chargé immédiatement. Mais 2 mois avaient passé et le revolver restait dans sa gaine, car je voulais choisir, pour me tuer, un moment où tout me serait un peu moins indifférent. Pourquoi ? Mystère. Mais l'étoile m'inspira le désir de mourir le soir même. Pourquoi ? Autre mystère. Comme je regardais obstinément le ciel, une fillette d'environ 8 ans me prit par la manche. La rue était déserte. Un cocher dormait sur son siège, très loin de nous. La fillette avait un mouchoir sur la tête, sa robe était misérable et toute mouillée, mais je ne faisais vraiment attention qu'à ses souliers déchirés et trempés. Tout à coup, la petite cria comme terrifiée « Maman ! Maman !» Je la regardais, mais sans lui dire un mot. Je marchais plus vite, mais elle continuait à me tirailler par la manche, tout en criant d'une voix désespérée. Je connais ce genre de cri-là. Puis, en quelques mots entrecoupés, elle me dit que sa mère était mourante, qu'elle était sortie au hasard pour appeler quelqu'un, n'importe qui, pour trouver quelque chose qui pût soulager sa maman. Je ne la suivis pas. Au contraire, je voulus la chasser. En y repensant, je me contentai de lui dire d'aller chercher un gardien. Mais elle joignit ses petites mains et courut à mon côté tout en pleurant, sans se laisser devancer. Alors je m'impatientai, je frappai du pied et la menaçai. Elle cria encore « Monsieur, monsieur !» Mais elle me quitta, traversa rapidement la rue et s'attacha au pas d'un autre passant qui survenait. Je montai à mon 5e étage, je loue une chambre garnie, pauvrement meublée, qui a pour fenêtre une lucarne. J'ai un canapé couvert de toile cirée, une table pour mes livres, 2 chaises et un vieux fauteuil. J'allumai une bougie, m'assis et me mis à penser. Dans la chambre voisine, séparée de la mienne par une simple cloison, on faisait la fête depuis 3 jours. Un capitaine de réserve demeurait là, qui avait réuni dans son taudis une 12 douzaine de chenapans qui buvaient de l'eau-de-vie avec lui en jouant aux cartes. La nuit d'avant, il y avait eu une bataille. La patronne avait voulu se plaindre, mais elle avait une peur épouvantable du capitaine. Comme autre locataire, à notre 5e, nous avions une petite dame maigre, veuve d'un militaire et mère de 3 petits-enfants tous malades. Le plus jeune de ses enfants avait eu si peur en entendant la rixe qu'il en avait pris une sorte d'attaque de nerfs. Moi, j'avais laissé crier derrière la cloison. Cela m'était bien égal. En rentrant ce soir-là, je pris mon revolver dans le tiroir de la table et le posai à côté de moi. Quand je l'eus atteint, je me demandai « Est-ce bien vrai ?» Et je me répondis « C'est bien vrai !» Bien vrai que j'allais me brûler la cervelle. J'étais décidé à me tuer cette nuit-là. Mais combien de temps mettrais-je à réfléchir à mon projet ? Je n'en savais rien. Et probablement que sans la rencontre de la fillette, je me serais brûlé la cervelle. Quoique tout me fût indifférent, je craignais la douleur physique. Et puis, je ressentais de la pitié pour cette petite fille rencontrée dans la rue tout à l'heure, et que j'aurais dû aider. Pourquoi n'étais-je pas venue à son secours? Parce que je voulais que tout me fût indifférent et que j'avais honte de ma pitié pour l'enfant. De la pitié, maintenant que je voulais me tuer. Pourquoi diable la douleur de la petite fille ne m'avait-elle pas été indifférente? C'était stupide. Voilà que j'en souffrais à présent. Voyons, si je me tuais dans 2 heures, que m'importait que cette petite fille fût malheureuse ou non? Je n'aurais plus de pensée bientôt. Je ne serais plus rien du tout. C'était pour cela que je m'étais lâchement fâchée contre la petite. Je pouvais commettre des lâchetés, puisque 2 heures plus tard, tout devait s'éteindre pour moi. Il me semblait que le monde dépendait de moi, qu'il était pour moi seul. Je n'avais qu'à me brûler la cervelle, et le monde ne serait plus. Peut-être vraiment qu'après moi, il n'y aurait plus rien, que le monde disparaîtrait au moment où disparaîtrait ma conscience. Qui savait si l'univers et les multitudes n'étaient pas en moi seul? Puis il me vint une étrange idée. Si, dans une existence antérieure, passée sur la Lune ou sur la planète Mars, j'avais commis quelque action malhonnête et honteuse, si j'avais conservé sur Terre la conscience d'avoir été là-bas, flétrie, déshonorée, ma honte me serait-elle indifférente quand, de la Terre, je regarderais Mars ou la Lune? Et, au fait, cette question était oiseuse, nigaude. Le revolver était là devant moi. Je voulais me tuer, mais la maudite question me travaillait, et j'étais furieux. Si après cela je ne voulais plus mourir sans avoir trouvé une réponse à mon absurde interrogation. Enfin, ce fut la fillette qui me sauva. Ce fut elle qui m'empêcha d'appuyer sur la gâchette de revolver. Pendant que je m'apaisais, le vacarme se calmait chez le capitaine. Les invectives grossières ne furent bientôt plus qu'un murmure. Les adversaires durent se coucher, s'assoupir. C'est alors que je m'endormis dans mon fauteuil, ce qui ne m'arrivait jamais. Je dormis et je rêvais. Drôle de monde, n'est-ce pas, que celui des songes? Quelquefois, des tableaux se présentent à vous avec une minutie de détails incroyable. Il arrive au cours des rêves des choses mystérieusement incompréhensibles. Mon frère est mort depuis 5 ans, et bien des fois, pendant mon sommeil, tout en me rappelant parfaitement qu'il est mort, je ne m'étonne pas du tout de le voir auprès de moi, de l'entendre parler de ce qui m'intéresse, d'être on ne peut plus certain de sa présence, sans oublier une minute qu'il est sous terre. Comment mon esprit s'accommode-t-il de ces 2 notions contradictoires? Mais laissons cela. Je reviens à mon rêve de cette nuit-là. Je suis fâchée que ce n'ait été qu'un rêve. En tout cas, c'est un rêve qui m'a fait connaître la vérité. Quand on a vu une fois la vérité, on sait que c'est la vérité. Il n'y en a pas deux, et elle ne change pas selon que vous veillez ou dormez. Je voulais quitter la vie par le suicide? Eh bien, mon rêve m'a prédit, m'a montré une nouvelle vie, belle et puissante, une vie de régénéré. Écoutez plutôt. Je vous ai dit que je m'étais endormie à force de raisonnement sur ce qui me préoccupait. Tout à coup, je me vis en songe, saisissant le revolver et me l'appliquant, non sur la tempe, mais sur le cœur. J'avais pourtant bien résolu de me brûler la cervelle en posant la gueule du pistolet sur ma tempe droite. Je demeurai un instant immobile, le bout du canon de l'arme appuyé sur ma poitrine. La bougie, la table et le mur se mirent à danser. Je tirai. Dans les songes, il vous arrive de tomber d'une hauteur, de vous voir égorgé ou tout au moins maltraité, sans éprouver la moindre douleur physique. À moins qu'en faisant un mouvement, vous ne vous blessiez réellement dans votre lit, ce qui est rare. Il n'en fut pas autrement dans ce rêve. Je ne souffris pas. Toutefois, il me sembla que tout tremblait en moi. Les ténèbres se firent, je me trouvai couché, la face tournée vers le plafond de ma chambre. Je ne pouvais faire un seul mouvement, mais autour de moi on s'agitait. Le capitaine parlait de sa voix de basse-taille, la patronne du logement poussait des cris aigus, et voilà que, sans autre transition, on me mit dans un cercueil que l'on referma. Je sentis que le cercueil était porté. Je fis quelques réflexions vagues à ce sujet, et tout à coup, pour la première fois, me frappa l'idée que j'étais mort, que je ne pouvais en douter, que je ne pouvais ni voir, ni bouger, ni parler, mais que je continuais à sentir et à raisonner. Je m'habituai très promptement à cette idée, comme il arrive toujours dans les songes où l'on accepte tout sans s'étonner. Sans aucune cérémonie, on me mit en terre. Déjà, tout le monde était parti. J'étais là, dans ma tombe, abandonné, oublié. Auparavant, quand je pensais à mon enterrement, bien loin dans le futur, je m'imaginais toujours éprouver une sensation de froid et d'humidité une fois enfermé dans mon caveau. Ce fut bien ce que je ressentis alors. Mes pieds surtout étaient glacés. Je n'attendais plus rien, admettant facilement qu'un mort n'a plus rien à attendre. Il se passa alors des heures, des jours ou des mois. Mais subitement, tomba sur mon œil gauche fermé une goutte d'eau qui avait traversé le couvercle du cercueil, puis une seconde, puis une troisième. En même temps, s'éveillait en moi une douleur physique. « C'est ma blessure, » pensais-je. « C'est le coup de revolver, la balle est là. » Et la goutte d'eau tombait toujours, peut-être de minute en minute, et toujours sur mon œil. Je me mis, comment dirais-je, à prier, à implorer, à défier, non par des paroles, mais par un élan intérieur de tout mon être. Celui qui permettait, qui avait ordonné tout ce qui venait de se passer. Qui que tu sois, si tu existes, s'il existe un principe conscient et raisonnable, aie pitié de moi. Mais si tu te venges de ce que je t'ai offensé en me donnant la mort par le suicide, je te préviens que nul des supplices que tu pourras m'infliger ne vaincra le mépris que je ressentirai immuablement pendant des milliers et des milliers d'années de torture. Et je me tus mentalement. Une minute au moins se passa encore. Même il me tomba sur l'œil une nouvelle goutte d'eau. Mais je savais déjà, à ne pouvoir me tromper, que tout allait changer presque instantanément. Et ma tombe s'ouvrit. Un être inconnu s'empara de moi, et nous nous trouvâmes tous deux dans l'espace. Brusquement, je pus voir, mais bien peu, car la nuit était plus profonde, plus ténébreuse qu'aucune des nuits de ma vie. Nous étions lancés en plein ciel, déjà loin de la terre. Je ne demandai rien à celui qui m'emportait. J'étais fier de la pensée que je n'avais pas peur. J'ignore combien de temps nous planâmes ainsi dans le vide. Tout continuait à se passer comme dans les songes, où le temps et l'espace ne comptent pas. Tout à coup, au milieu de l'obscurité, je vis briller une étoile. « Est-ce Sirius ? » m'écriai-je, oublieux de ma résolution de ne rien demander. « Non, c'est l'étoile que tu as vue en rentrant chez toi. » me répondit l'être qui m'emportait. Je pouvais me rendre compte qu'il avait une sorte de visage humain. Chose bizarre, j'avais cet être en aversion. Je m'attendais au non-être en me tirant une balle dans le cœur, et je me voyais entre les mains d'un être qui, sans doute, n'était pas humain, mais qui existait. Alors, il y a une vie au-delà de la tombe, pensais-je. Il me faudra être de nouveau, subir la volonté de quelqu'un dont je ne pourrais me débarrasser. Je m'adressai à l'être. « Tu sais que j'ai peur de toi, et tu me méprises à cause de cela. » Sans qu'il me répondît, je sentis qu'il n'avait pour moi aucun mépris, qu'il ne riait pas de moi, ne me plaignait pas non plus. Il me conduisait tout simplement à un but inconnu et mystérieux. La peur me gagnait de plus en plus. Pourtant, une sorte de communication muette, mais compréhensible, s'établissait entre mon silencieux compagnon et moi. Depuis longtemps, j'avais cessé de voir les constellations auxquelles mes yeux étaient habitués. Je savais qu'il y avait des étoiles dont la lumière mettait des siècles à atteindre la Terre. Peut-être traversions-nous les espaces où se meuvent ces astres inconnus. J'étais dans l'angoisse d'une attente indéterminée. Subitement, un sentiment familier, et combien agréable, entra en moi. C'était la joie de revoir notre soleil. Pourtant, je compris vite que ce ne pouvait être notre soleil, celui qui a donné naissance à notre Terre. Nous étions à des distances incommensurables de notre système planétaire. Mais je fus heureux de voir à quel point ce soleil ressemblait à notre soleil. La lumière vitale, celle qui m'avait donné l'existence, me ressuscita. Je sentis en moi une vie aussi forte que celle qui m'avait animée avant la tombe. « Mais c'est un soleil pareil au nôtre. Il doit y avoir une terre. Où est-elle ?» Mon compagnon me désigna une petite étoile qui brillait au loin d'une lueur d'émeraude. Nous volions droit vers elle. « De pareilles répétitions existent donc dans l'univers ? » clamai-je. « Cette terre est-elle donc toute pareille à la nôtre ? Misérable, mais aimée des plus ingrats de ses enfants, comme nous aimions notre astre, à nous ? » « Et l'amour de la terre, à jamais abandonné, repassa en moi, violent et douloureux, et je revis l'image de la fillette envers laquelle j'avais si mal agi. « Tu reverras tout, » répondit mon compagnon, dont la voix sonna triste dans l'espace. Nous approchions très vite de la planète. Elle croissait à vue d'œil. Je reconnus à sa surface l'océan, la forme de l'Europe, d'une nouvelle Europe, et un sentiment qui ressemble à de la jalousie s'éveilla en moi. Pourquoi cette nouvelle édition de notre monde ? Je ne puis aimer que ma terre, celle où demeurent les traces de mon sang, celle que j'ai été assez ingrat pour quitter en me brûlant la cervelle. Ah ! Jamais je n'ai cessé de l'aimer, celle-là, même la nuit de la séparation. Peut-être même, cette nuit-là, l'ai-je aimée plus douloureusement que jamais. Y a-t-il de la souffrance sur cette copie de notre monde ? Sur notre terre, il n'y a d'êtres aimants que pour la souffrance et par la souffrance. Oh, combien j'aspirerais à baiser le sol du cher astre abandonné, à l'embrasser en pleurant. Je ne veux d'aucune existence sur un autre astre. » Mais mon compagnon m'avait déjà laissé seul, et tout à coup, sans savoir comment, je me trouvais sur cette nouvelle terre, baigné de la lumière d'une journée paradisiaque. J'avais pris pied, me semble-t-il bien, sur l'une des îles de l'archipel grec ou sur une côte voisine. Oh, que tout était bien terrestre! Mais comme tout brillait d'une lumière de fête. Une mer caressante, d'une couleur smaragdine, frôlait la plage, qu'elle semblait baiser avec un amour presque conscient. De grands arbres innombrables, fleuris et parés de belles feuilles brillantes, me félicitaient, j'en suis sûre, de mon arrivée, tant leur frisolie faisait une tendre musique. L'herbe était diaprée de fleurs embaumées. Dans l'air, des oiseaux volaient par troupes, et beaucoup d'entre eux, sans montrer la moindre frayeur, venaient se poser sur mes mains, sur mes épaules, en battant gentiment des ailes. Bientôt, les hommes de cette terre heureuse vinrent à moi. Ils m'entourèrent joyeusement et m'embrassèrent. Comme ces enfants d'un autre soleil étaient beaux. Sur mon ancienne terre, pareille beauté était introuvable. C'est à peine si, chez nos plus petits-enfants, on pourrait découvrir un faible reflet de cette beauté. Les yeux de ces êtres heureux brillaient d'un doux éclat. Leur visage exprimait la sagesse et une conscience sereine, une gaieté charmante. Leurs voix étaient pures et joyeuses, comme des voix d'enfants. Dès le premier regard, je compris tout. J'étais sur une terre qui n'avait pas encore été profanée par le péché. L'humanité vivait comme la légende veut qu'aient vécu nos premiers ancêtres, dans un paradis terrestre. Et ces hommes étaient si bons que lorsqu'ils m'emmenèrent vers leur demeure, ils s'efforçaient par tous les moyens de chasser de mon être le plus léger soupçon de tristesse. Ils ne m'interrogeaient pas, mais ils semblaient savoir tout ce qui me concernait, et leur plus grand souci était de me voir redevenir vraiment heureux. Bien que je n'aie ressenti ces choses que dans un songe, le souvenir de l'affectueuse sollicitude de ces hommes innocents est resté en moi pour toujours. Je sens que leur affection me suit encore de là-bas. Pourtant, je ne les comprenais pas en tout. Je ne suis qu'un progressiste russe, un prosaïque pétersbourgeois. Et il me paraissait invraisemblable que, sachant tout ce qu'ils savaient, ils ne fussent aucunement préoccupés de nos sciences. Je dus admettre bientôt que l'essence, leur savoir, était différente de celle de notre instruction, et que leurs aspirations étaient tout autres que les miennes, par exemple. Leur désir était calme. Ils ne souhaitaient pas, comme nous, connaître le sens de la vie, parce que leur existence était plus remplie que la nôtre. Leur savoir était, en réalité, plus haut et plus profond que celui dont nous nous targuons. Ils connaissaient tout sans science et sans fureur d'apprendre des formules. Je compris comment ils concevaient les choses, mais ne pus arriver à les concevoir comme eux. Ils me montraient leurs beaux arbres, et je me sentais incapable de l'amour qu'ils manifestaient pour eux. Je crois même qu'ils allaient jusqu'à parler avec les végétaux. Oui, ils connaissaient la langue de ce que nous appelons la nature inanimée, et parvenaient à communiquer avec elle. Bien entendu, ils avaient des rapports affectueux avec les animaux, qui ne songeaient même pas à les attaquer. Ils me montraient aussi les étoiles et me disaient, à leur sujet, des choses au-dessus de mon entendement. En tout cas, je fus convaincue qu'ils s'entretenaient avec elles plus matériellement que par une transmission de pensée. Ces hommes ne s'impatientaient pas de mon incompréhension. Ils m'aimaient telle que j'étais. Mais je sentais qu'eux non plus ne me comprendraient jamais, et c'est pour cela que je leur parlais le moins possible de notre terre. Je me demandais parfois comment des hommes si supérieurs à moi n'arrivaient pas à m'humilier par leur perfection. Comment, à un mauvais être comme moi, ils n'inspiraient aucune jalousie. Et pourquoi, me disais-je, moi, le verbeux et le vantard, n'ai-je point l'idée de les étonner en leur révélant mon genre de savoir, dont ils n'ont pas la moindre idée? Ils étaient vifs et gais comme des enfants. Ils se promenaient dans leurs belles forêts, dans leurs douces clairières, en chantant leurs belles et douces chansons. Leur nourriture ne consistait qu'en fruits de leurs arbres, en miel des bois et en lait de leurs amis les animaux. Ils n'avaient que peu à faire pour se procurer des aliments et des vêtements. Ils connaissaient l'amour matériel, car des enfants naissaient chez eux. Mais jamais je ne les ai vus tourmentés de ce féroce désir de volupté qui torture les pauvres hommes de notre globe, et qui est la source de tous nos péchés. Ils étaient heureux de voir naître des enfants qui seraient pour eux de nouveaux compagnons, appelés à partager leur félicité. Entre eux, jamais de dispute ni de jalousie. Ils ne comprenaient même pas ce que ce dernier mot voulait dire. Leurs enfants appartenaient à tous, car ils n'étaient tous qu'une seule et même famille. Il n'y avait pour ainsi dire pas de maladie chez eux, bien qu'ils connussent la mort. Mais leurs vieillards mouraient doucement, comme en s'endormant, entourés d'amis qui leur disaient adieu, sans tristesse, avec de doux sourires au contraire. Douleur et larmes étaient des termes ignorés. On ne constatait partout que de l'amour qui ressemblait à de l'extase. Ils s'entretenaient certainement avec leurs défunts. Les relations entre gens qui s'étaient aimés n'étaient pas interrompues par la mort. Je remarquai qu'ils ne comprenaient pas très clairement quand je leur parlais de vie éternelle. Peut-être y croyaient-ils si fermement que toute conversation sur ce sujet leur paraissait oiseuse et superflue. Ils n'avaient pas de religion, mais ils étaient évidemment bien certains que lorsque la joie terrestre serait arrivée à son summum, un changement surviendrait qui rendrait plus complète l'union des hommes avec le grand tout, âme de l'univers. Ils attendaient ce moment avec joie, mais sans hâte. On eût dit qu'ils jouissaient déjà du pressentiment qu'ils emportaient dans leur cœur. Aux heures vespérales, avant d'aller dormir, ils aimaient à former des chœurs harmonieux. Ils chantaient alors tout ce qu'ils avaient ressenti dans la journée, à laquelle ils disaient adieu. Ils louaient la nature, la terre, la mer, les forêts. Ils aimaient à composer des chansons les uns sur les autres. Elles étaient toujours affectueuses et douces, et allaient au cœur. Ce n'était pas seulement en musique qu'ils exprimaient leur tendresse mutuelle. Toute leur vie était la preuve de l'amitié qu'ils se portaient les uns aux autres. Ils avaient aussi d'autres chants, majestueux et splendides, mais tout en comprenant les mots, je n'en saisissais pas le sens. Toutefois, si mon esprit ne pouvait s'élever jusqu'à l'intelligence de leur beauté, mon cœur semblait se pénétrer profondément de leur splendeur suave. Souvent je leur disais que depuis longtemps j'avais pressenti leur état de félicité, que là-bas, sur la terre, le contraste entre leur vie délicieuse devinée et le sort qui était le nôtre m'avait maintes fois rempli l'âme de tristesse, que dans mon inimitié pour les hommes de mon globe, il entrait aussi tant de tristesse. Quel supplice! Vouloir les haïr et ne pouvoir s'empêcher de les aimer sans toutefois arriver à leur pardonner. Ils ne pouvaient entrer dans un pareil sentiment, mais que m'importait? Je les aimais sans leur demander de partager mes rancœurs. Où ils rirent, c'est quand je leur racontais mes songes. Ils me dirent qu'on ne voyait pas de semblables choses en rêve, que, sans le savoir, innocemment j'avais inventé tout cela, que je m'abusais moi-même, que tous les détails je les avais, dans un délire, fabriqués de toutes pièces. Quand je leur dis que c'était peut-être, en réalité, mon Dieu, comme ils m'ont ri au nez! Et comment puis-je ne pas croire que tout cela était? Peut-être cela était-il mille fois mieux, plus joyeux que je le raconte. Que cela soit un rêve, mais je vous dirai un secret. Tout cela n'est peut-être pas un rêve, car ici il est arrivé quelque chose vrai jusqu'à telle horreur qu'on ne pourrait le voir en rêve. Jugez-vous-même. Jusqu'à présent je l'ai caché, mais maintenant je raconterai cette vérité. Le plus terrible, c'est qu'ils réfléchirent trop à tout cela. C'est moi qui, par mes récits, les ai corrompus. Oui, hélas, je les ai corrompus. Oui, c'est moi qui fus la cause de leur chute. Je fus le ferment mauvais qui contamina une multitude d'êtres. Je fus pareil à une trichine immonde, à un germe de peste. Je corrompis cette terre innocente, si heureuse avant mon arrivée. Les hommes de la belle terre de l'amour apprirent à mentir et se complurent dans leurs mensonges. Ils leur trouvèrent de la beauté. Ils introduisirent le mensonge dans l'amour, et bientôt dans leur cœur naquit la sensualité qui engendra la jalousie qui fut mère de la férocité. Oh, je ne me souviens pas quand, au juste, mais très peu de temps après qu'ils eurent pris goût au mensonge, le premier sang criminellement versé coula. Ils s'étonnèrent, s'effrayèrent, et prirent l'habitude de vivre à l'écart les uns des autres. De petits groupes d'alliés se formèrent, mais pour menacer d'autres groupes. Les haines éclatèrent. Vint au monde l'idée de l'honneur, et chaque groupe d'alliés arbora son étendard. Les hommes commencèrent à maltraiter les animaux, qui se réfugièrent loin d'eux, dans les forêts, et devinrent leurs ennemis. Des langues différentes naquirent. Une lutte terrible commença. Ils connurent la douleur, ces hommes, en eurent une malsaine appétence, et érigèrent en principe que la vérité ne se révèle que par la douleur. Alors apparut chez eux la science. Quand ils furent devenus méchants, ils commencèrent à parler de fraternité et de désintéressement, et saisirent les idées représentées par ces mots. Quand ils devinrent coupables, ils inventèrent la justice, rédigèrent des codes, conduisirent des machines destinées à l'exécution des condamnés à mort. Ils ne se rappelèrent plus que vaguement ce qu'ils avaient été, ce qu'ils avaient perdu, et même ils n'osèrent pas croire qu'ils eussent été réellement innocents et heureux. Ils se moquèrent même de ceux qui admettaient la possibilité de ce bonheur passé, qu'ils affectaient d'appeler un rêve. Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'après avoir perdu toute foi en cette félicité disparue, ils eurent un désir si violent de redevenir innocents et heureux qu'ils divinisèrent ce désir, lui élevèrent des temples, lui adressèrent des prières, tout en le considérant comme irréalisable, mais en se prosternant devant lui, tout en larmes. Il est sûr, toutefois, que si on leur avait montré cette vie à présent rêvée, ils n'en auraient plus voulu. Quand je leur en parlais, ils me répondaient « Oui, nous sommes méchants, menteurs et injustes. Nous le savons, et c'est pour cela que nous nous châtions nous-mêmes plus durement que ne le fera plus tard le juge magnanime qui décidera de nos sorts et dont nous ne savons pas le nom. Mais nous avons la science. Par elle, nous retrouverons la vérité, que nous accepterons cette fois, consciemment. Le savoir est au-dessus du sentiment. La compréhension de la vie est plus précieuse que la vie. La science nous donnera la sagesse, et la sagesse nous révélera les lois du bonheur. » Telles étaient leurs paroles, et pourtant chacun d'eux ne cessa pas de se préférer à l'humanité entière, sans pouvoir faire autrement. Chacun devint si jaloux de l'importance de sa propre personnalité qu'il faisait tout au monde pour diminuer la personnalité des autres. Le servage naquit, même le servage volontaire. Les faibles obéissaient de leur plein gré aux forts, à condition que ces derniers les aidassent à en asservir de plus faibles qu'eux. Des justes apparurent qui vinrent en pleurant trouver leurs frères et leur reprochèrent leur déchéance. On riait d'eux ou on les lapidait. Le sang coulait aux portes des temples. En revanche, d'autres hommes surgirent qui cherchèrent un moyen d'amener leurs congénères à vivre en paix, tout en admettant que chacun avait le droit de se préférer à tous ceux de son espèce. De vraies guerres éclatèrent à propos de cette idée. Mais chaque combattant était bien convaincu que la science, la sagesse et l'instinct de la conservation forcerait bientôt tous les hommes à reprendre leurs relations pacifiques et paternelles. Pour obtenir ce résultat, ils commencèrent par les faibles d'esprit. Et dans cette catégorie se rencontraient naturellement tous les adversaires de leurs idées. Mais le sentiment de la conservation perdit bientôt de sa force, et les orgueilleux et les voluptueux demandèrent tout ou rien. Naturellement, ils en appelèrent à la violence pour triompher. Battus, il leur resta la ressource du suicide. Alors naquirent des religions qui célébraient le culte du non-être. Ce fut un acte méritoire que de se donner la mort pour gagner l'éternel repos dans le néant. Les hommes chantèrent la douleur dans leurs poèmes. Je me lamentais sur leur sort, je pleurais sur eux, les aimant peut-être encore plus qu'à l'époque où la douleur n'avait pas mis son empreinte sur leur visage, qu'alors qu'ils étaient innocents et beaux. J'aimais encore plus leur terre, maintenant qu'elle était profanée par eux, que quand elle était un paradis. Je tendais mes bras vers ces pauvres êtres en m'accusant, en me maudissant d'avoir fait leur malheur. Je leur disais que j'étais la cause de tous leurs maux, la seule cause, que j'avais été chez eux le ferment de vices et de mensonges. Je les suppliais de me mettre à mort, de me crucifier, et je leur montrais comment construire la croix. Je n'avais pas, disais-je, la force de me tuer moi-même, mais j'avais soif de tourments, de supplices. Je voulais être torturé jusqu'au moment où je rendrais l'âme. Mais ils se contentaient de se moquer de moi, et à la fin, ils me prirent pour un idiot. Ils m'excusaient, affirmant que je ne leur avais apporté que ce qu'ils désiraient avoir. Ce qui était maintenant ne pouvait pas ne pas être. Pourtant, un beau jour, agacés, ils déclarèrent que je devenais dangereux et qu'ils allaient m'enfermer dans une maison de santé si je ne consentais à me taire. Alors la douleur m'envahit avec une telle force que je sentis que j'allais mourir. Et c'est à ce moment que je m'éveillai. Il pouvait être 6 heures du matin. Je me retrouvais dans le fauteuil. Ma bougie s'était brûlée jusqu'au bout. On dormait chez le capitaine, et le silence régnait dans tout l'appartement. Je sursautai sur mon siège. Jamais je n'avais eu de rêve pareil, avec des détails aussi clairs, aussi minutieux. Tout à coup, j'aperçus mon revolver tout chargé. Mais à l'instant même, je le jetai loin de moi. Ah ! La vie ! La vie ! Je levai les mains et implorai l'éternelle vérité. J'en pleurais. Un enthousiasme fou soulevait tout mon être. Oui, je voulais vivre et me vouer à la prédication. Certes, désormais, me dis-je, je prêcherai partout la vérité, puisque je l'ai vue, vue de mes yeux, vue dans toute sa gloire. Depuis ce temps-là, je ne vis que pour la prédication. J'aime ceux qui rient de moi. Je les aime plus que les autres. On dit que je perds la raison parce que je ne sais comment convaincre mes auditeurs, parce que je cherche par tous les moyens à les toucher et que je n'ai pas encore trouvé ma voie. Sans doute, je dois m'égarer bien souvent. Mais quelles paroles dire? Quelles actions donner en exemple? Et qui ne s'égare pas? Et pourtant, tous les hommes, depuis le sage jusqu'au dernier des brigands, tous veulent la même chose, qu'ils cherchent par des moyens différents. Et je ne puis m'égarer bien loin, puisque j'ai vu la vérité, puisque je sais que tous les hommes peuvent être beaux et heureux sans cesser de vivre sur la terre. Je ne veux pas, je ne peux pas croire que le mal soit l'état normal de l'homme. Comment pourrais-je croire une chose semblable? J'ai vu la vérité et son image vivante. Je l'ai vue si belle et si simple que je n'admets pas qu'il soit impossible de la voir chez les hommes de notre terre. Ce que je sais me rend vaillant, fort, dispos, infatigable. J'irai de l'avant. Quand même ma mission devrait durer 1000 années. Si je m'égare encore, la belle lumière du vrai me remettra dans mon chemin. Au début, j'avais voulu cacher aux habitants de l'autre terre que j'étais l'agent de corruption. Mais la vérité me murmura tout bas que j'étais en faute, que je mentais, et me montra la route à suivre. La route droite. C'est bien difficile de réorganiser le paradis sur notre terre. D'abord, depuis mon songe, j'ai oublié tous les mots qui pouvaient le mieux exprimer mes idées. Tant pis, je parlerai comme je pourrai, sans me lasser, car j'ai vu, si je ne sais décrire. Et les moqueurs peuvent rire encore et dire, comme ils l'ont déjà fait, « C'est un songe qu'il raconte !» Et il ne sait même pas le raconter. Soit, c'est un songe. Mais qu'est-ce qui n'est pas songe? Mon rêve ne se réalisera pas de mon vivant. Qu'importe, je prêcherai tout de même. Et la réalisation en serait si simple. Ce serait l'affaire d'un jour, d'une heure. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Que chacun aime les autres comme soi-même. Après cela, il n'y a plus rien à dire. C'est compréhensible pour tout le monde, et tout le bonheur découlera de là. Ah, voilà, c'est d'une trop vieille vérité répétée des billions de fois et qui pourtant ne s'est enracinée nulle part. Il faut la répéter encore. La compréhension même de la vie, dites-vous, est plus intéressante que la vie elle-même. La science de ce qui peut donner le bonheur est plus précieuse que la possession du bonheur. Voilà les erreurs qu'il faut combattre, et je les combattrai. Si tous voulaient sincèrement le bonheur serait, et immédiatement. Et la petite fille? Je l'ai retrouvée. Chapitre 5. L'acquittement de l'inculpé Kornilova. Le 22 avril de cette année, l'affaire de l'inculpé Kornilova est revenue devant un autre jury. Le verdict et l'arrêt prononcé par les tribunaux l'an passé ont été cassés, vu l'insuffisance de l'expertise médicale. La plupart de mes lecteurs se rappellent probablement cette affaire. Une jeune marâtre, alors encore mineure, enceinte, furieuse contre son mari, qui la froissait en lui vantant les mérites de sa première femme, après une violente querelle avec lui, jeta par la fenêtre d'un quatrième étage la fille de son mari, âgée de 6 ans. Par miracle, l'enfant ne se fit aucun mal. Cet acte sauvage de la jeune femme était si absurde, il était en telle contradiction avec tous ses autres actes, qu'une question se posait d'elle-même. Sa responsabilité était-elle entière? Ne pouvait-on imputer cet acte à un état morbide dû à la grossesse? Le matin, elle se leva, son mari partit à sa besogne, elle laissa dormir l'enfant. Puis la réveilla, l'habilla, la chaussa, lui fit boire du café. Alors elle ouvrit la fenêtre et la lança dans le vide. Sans même regarder par la fenêtre pour voir ce que devenait l'enfant, elle ferma la fenêtre, s'habilla et s'en fut au commissariat de police. Là, elle raconta ce qui venait de se passer. Elle répondit aux questions d'une manière étrange et grossière. Quand, quelques heures après, on lui apprit que l'enfant était sain et sauve, elle ne manifesta ni joie ni dépit, et prononça avec un grand sang-froid « Elle a la vie dure !» Ensuite, pendant presque 1 mois et demi, dans les 2 prisons où elle fut incarcérée, elle continua de rester morne, grossière, peu communicative. Et tout d'un coup, elle se changea toute. À partir des 4 derniers mois de sa grossesse, avant le premier jugement et après, la directrice de la section des prisonnières n'a pas assez d'éloges pour elle. Un caractère égal, doux, tendre, paisible, se manifeste. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de tout cela. En un mot, le premier arrêt a été cassé et, le 22 avril, Kornilova a été acquittée. J'étais dans la salle des séances et j'en ai emporté beaucoup d'impressions. Je regrette d'être dans l'impossibilité complète de les décrire. Je dois me contenter de quelques mots. Même si je parle de cette affaire, c'est que j'en ai déjà beaucoup entretenu mes lecteurs et que je ne crois pas superflu de leur en faire connaître la fin. Les seconds débats furent 2 fois plus longs que les premiers. Le jury était excessivement bien composé. Un nouveau témoin, la directrice de la section des prisonnières, avait été cité. Sa déposition sur les phases du caractère de la Kornilova était extrêmement importante et favorable. La déposition du mari de la prévenue était aussi très remarquable. Avec une loyauté parfaite, il n'a rien caché des querelles et des injures de sa part. Il excusait sa femme. Il parlait franchement, cordialement, loyalement. Ce n'est qu'un paysan, il est vrai, un paysan vêtu à l'européenne, qui lit et reçoit 30 roubles de salaire par mois. Ensuite, il y avait une élite d'experts. On avait convoqué 6 savants, tous célébrités et notabilités de la médecine. 5 d'entre eux, eux, ont donné leur avis. Tous ont déclaré sans hésiter que l'état morbide, habituel chez une femme enceinte, pouvait bien, en l'espèce, avoir suscité le crime. L'avocat, général, lui-même, a renoncé à soutenir l'accusation de préméditation. L'acquittement a provoqué l'enthousiasme du nombre public. Plusieurs personnes se signèrent, d'autres se félicitaient mutuellement. Le même soir, le mari de l'acquittée l'a ramenée chez lui. Toute heureuse, elle est rentrée de nouveau dans sa demeure après 1 année d'absence, emportant l'impression d'une dure leçon pour toute sa vie et l'indice de l'immixtion de la Providence en cette affaire, à commencer par le salut miraculeux de la fillette.